Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi.
Le 12-30, Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi et en ce jeudi 12 août. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, les médecins assument, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de trier les patients aux Antilles. Les hôpitaux sont au bord de l'implosion. Les services de réanimation en Martinique affichent 200% d'occupation. Le trafic des faux passes sanitaires en plein boom. À Marseille, des hackers ont réussi à voler les identifiants d'un médecin. Ils ont généré plus de 170 QR codes. Le fisc version 2.0. Bercy veut désormais dénicher les fraudeurs avec l'aide de Google. Un tiers de notre vie passée à surfer sur Internet. Plus de 27 ans au total, selon une nouvelle étude. Faut-il s'en inquiéter? L'invité de RTL Midi sera le psychologue Michael Stora, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et puis un changement de menu qui provoque un tollé en Allemagne quand la Volkswagen tente de supprimer la célèbre saucisse currywurst à la cantine. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Soleil et chaleur et même canicule avec des orages, un cocktail estival.
Exactement, donc dans le détail, des orages forts sont à prévoir pour cet après-midi. On a le carburant nécessaire qui est de forte chaleur. D'ailleurs, je rappelle que 2 départements sont encore en vigilance canicule et 10 autres départements sont en vigilance, justement, orage. Des orages forts, surtout en région Rhône-Alpes. Partout ailleurs, c'est le maintien du beau temps avec encore des températures caniculaires, plus de 40 degrés dans l'arrière-pays provençal. Sinon, partout ailleurs, on va flirter dangereusement avec les 30 degrés. Ça sera plus respirable vers le littoral de la Manche.
Merci beaucoup, Claire. La question du jour, approuvez-vous la fin de la gratuité pour les tests anti-Covid? Elle est prévue pour la mi-octobre, selon le gouvernement. Vous dites oui à 77%. Vous approuvez la fin de la gratuité pour les tests anti-Covid à 77%. Non à 20%. Vos chroniques du jour, les jeux sont faits, qui nous emmènera à Athènes, post-JO de 2004. Et puis après 13h, on reviendra sur le scandale Festina, sur le Tour de France en 98, un épisode majeur pour l'innovation dans la lutte contre le dopage. Et puis ensuite, les auditeurs ont la parole jusqu'à 13h30. Bienvenue sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Les hôpitaux sont déjà plus que saturés, hein, avec 200% d'occupation des lits de réanimation en Martinique, 162% en Guadeloupe. Ça veut dire que les patients sont 2 fois plus nombreux que les lits disponibles, alors que l'épidémie continue d'afficher une progression sans précédent. Virginie Guérin, pour la première fois en France, des soignants assument, ils sont obligés de faire le tri dans leurs patients.
Alors, il y a eu, lors de la première vague l'an dernier, dans le Grand Est ou le Val d'Oise, qui était en situation critique, sans doute des médecins qui ont déjà dû choisir. Mais ce n'était pas dit ouvertement. Effectivement, là, les médecins sur place aux Antilles expliquent qu'ils arrivent à cette situation. Le professeur Serge Romana travaille à Paris, à l'hôpital Necker. Il est guadeloupéen, mais il a des collègues au téléphone très régulièrement sur place. Et ils lui ont expliqué que des personnes qui ont besoin de respirateurs, d'être en réanimation, ne peuvent plus. Elles sont transférées dans d'autres services. La situation, écoutez, est très compliquée.
Elle est cataclysmique. C'est le terme qu'utilisent mes collègues. Mes collègues sont exténués, c'est du jamais vu. On reçoit des patients de réanimation dans d'autres services, donc ils ne peuvent pas être soignés correctement. C'est-à-dire on est dans une situation où on est proche du blocage, en fait, d'un effondrement, une grande difficulté, parce que c'est d'autres patients, non seulement les patients Covid qui vont y rester pour une partie d'entre eux, mais c'est d'autres patients qui vont dans d'autres services alors qu'ils doivent être en réanimation.
Alors, le variant Delta touche beaucoup de jeunes. Il faut le dire aussi, 100% des personnes qui arrivent à l'hôpital ne sont pas vaccinées aux Antilles. Et des médecins sont donc obligés, entre un malade de 40 ans et un autre de plus de 60 ans qui ont besoin de réanimation, sont obligés de choisir. Pourtant, les moyens, le nombre de lits de réanimation a été triplé. Des renforts ne cessent d'arriver de métropole. Mais la situation va empirer, car aux Antilles, on est très loin du pic du nombre de cas. La progression est toujours exponentielle.
Voilà, la situation risque d'empirer. Merci beaucoup, Virginie Guérin pour RTL. En France métropolitaine, là, l'épidémie continue sa progression dans une moindre mesure. Les annonces d'Emmanuel Macron avaient dopé la campagne de vaccination le mois dernier, mais le soufflet est en train de retomber. Le nombre d'injections quotidiennes est désormais équivalent à celui du mois de mai dernier. Hier à Toulouse, le centre de vaccination de l'île du Ramier a injecté sa 500 millième dose. C'est un record en Europe. Mais depuis quelques jours, la fréquentation a fortement baissé, Patrick Hisson.
Oui, dans les journées les plus chargées, il y a eu ici jusqu'à 1000 vaccinations par heure. Et ce résultat n'est pas vraiment une surprise pour le professeur Vincent Boone, le directeur du SAMU.
On est quand même un petit peu dans le temple de la médecine de catastrophe en France. Hein. On se rappelle d'AZF, on se rappelle de MERA. Et donc, il y a cette culture d'organisation un petit peu de pointe sur la réponse à la catastrophe. Et il y a surtout ce réservoir d'étudiants extraordinaires, dévoués, qui n'ont pas pris de vacances, eux, qui ont vacciné tout l'été et qui nous aident vraiment avec une abnégation qui force vraiment le respect.
Hier encore, de nombreux primo-vaccinés ont franchi le pas.
Ma petite fille m'a tellement boostée que voilà, j'ai fait, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus.
Bon, ça s'est bien passé ?
Oui, très bien.
C'est pas une décision volontaire, c'est une obligation parce que sinon je vais plus avoir de salaire. Je suis obligée pour continuer mon travail.
Cela dit, depuis quelques jours, le centre ne tourne qu'au tiers de ses capacités, un relâchement que rien ne justifie pour le professeur Nassim Kamar, le responsable de la cellule de crise de l'hôpital Rangueil.
On voit dans quel état sont nos services, nos réanimations. Tous les patients que nous avons dans nos réanimations, 99% sont des patients non vaccinés. Donc on n'a pas d'autre porte de sortie que la vaccination.
Une réanimation totalement saturée à Toulouse, où deux patients ont été transférés hier dans le Grand Est et les Hauts-de-France.
Patrick Hisson pour RTL. De l'eau salée dans les seringues. En Allemagne, près de 9000 personnes pourraient avoir été faussement vaccinées. L'infirmière a été immédiatement licenciée. Sur les réseaux sociaux, elle remettait en question l'existence même de l'épidémie. Et après les faux vaccins, attention aux faux passes sanitaires. Les fraudes se multiplient depuis quelques jours. Parfois, ce sont des professionnels de santé qui font semblant de vacciner les patients. Mais on assiste également à une nouvelle forme d'arnaque. À Marseille, Hugo Hamelin, un médecin, affirme que son ordinateur a été piraté pour générer des faux QR codes.
Ouais, c'est une information du quotidien La Provence dont nous avons eu confirmation auprès du parquet de Marseille ce matin, qui vient d'ouvrir une enquête préliminaire. En fait, le ou les hackers seraient parvenus à pénétrer dans le profil Amélie, le profil de la sécurité sociale de ce chirurgien de l'hôpital européen. Et donc avec ces identifiants piratés, ils ont généré pas moins de 178 vrais faux passes sanitaires qui se baladent dans la nature actuellement. Les enquêteurs remontent la piste numérique pour tenter de retrouver les bénéficiaires de ces certificats de vaccination. Un sésame de vie sociale que certains, une toute petite minorité, hein, essayent désormais d'obtenir illégalement.
Hugo Hamelin pour RTL. Le gouvernement confirme les tests de dépistage alternative à la vaccination pour le pass sanitaire vont devenir payants dès la mi-octobre selon Gabriel Attal. On pourra en parler tous ensemble dans Les Auditeurs ont la parole. Ce sera à partir de 13h. On marque une pause et dans un instant, traquer la fraude fiscale avec l'aide de Google.
RTL. RTL Midi. Alexandre de Saint-Aignan.
Midi 38 sur RTL. Les Français adorent les piscines avec 3 millions de bassins. Nous sommes le deuxième pays au monde derrière les États-Unis. Mais les travaux ont-ils toujours bien été déclarés, sans parler de l'abri de jardin ou de la véranda? Le ministère de l'Économie et des Finances se penche sur le sujet grâce à la technologie, Marie Guerrier, avec potentiellement une alliance inattendue avec Google.
Oui, le fisc utilise l'intelligence artificielle et le big data. Alors, des algorithmes informatiques permettent de comparer ce que l'on voit sur des images satellites avec ce que le contribuable a déclaré. Il y a donc d'un côté les images fournies par l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique, et de l'autre les dossiers fiscaux. Là où intervient Google, c'est sur la technologie de croisement des données, les algorithmes. Le géant américain a développé des programmes d'intelligence artificielle et puis il a été aussi choisi pour ses capacités de stockage de cloud. Alors concrètement, les algorithmes déterminent sur les images aériennes les autour des piscines et des bâtiments. Le traitement informatique vérifie ensuite si ce qui a été détecté est correctement imposé, hein, notamment la taxe foncière. Donc tel bassin, telle extension de maison, telle véranda. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, le propriétaire est invité à régulariser sa situation. Une expérimentation a été menée entre 2017 et 2019 dans 3 départements. Et par exemple, dans les Alpes-Maritimes, quelques 3000 piscines ainsi détectées n'avaient pas été déclarées au fisc.
Bon, alors ça c'est pour les images satellites, mais le fisc utilise déjà les réseaux sociaux pour traquer les fraudeurs.
Oui, un décret de février dernier permet de collecter des informations sur les comptes Facebook, Instagram ou autres pour cibler ensuite des contrôles. Alors uniquement, attention, des informations librement accessibles, rendues publiques par les utilisateurs sur leur compte. Les commentaires et les informations échangées en privé ne peuvent pas être collectées. Ça concerne aussi les plateformes de vente entre particuliers comme Le Bon Coin pour débusquer d'éventuels trafics. L'expérimentation doit durer 3 ans.
Les explications signées Marie Guerrier pour RTL.
RTL Midi.
Et l'invité de RTL Midi, c'est Michael Stora, psychologue et psychanalyste fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Bonjour.
Bonjour.
Alors le numérique et notamment Internet, on vient de l'entendre, prennent de plus en plus de place dans nos vies. Selon une nouvelle étude, les Français consacrent 27 ans de leur vie à utiliser Internet. Bon, c'est une projection évidemment, ça fait à peu près 8 heures par jour. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Écoutez, on va dire que le phénomène d'hyperconnexion date. Hein. On s'est rendu compte que les Français ont un goût prononcé pour leur smartphone. En même temps, lisant l'étude, j'ai cru voir aussi que les Espagnols étaient devant nous. Mais écoutez, c'est vrai que c'est intéressant, c'est amusant comme idée que on passerait quasiment autant de temps sur notre portable que dormir, puisque je crois que c'est 27 années aussi de sommeil.
Et oui, en effet. C'est à peu près 8 heures par jour. Ouais,
c'est ça. Donc finalement, il y a ce qu'on repère, c'est à quel point est-ce que les études ont montré que là où on passe le plus de temps, c'est quand même les SMS et les réseaux sociaux. Donc ça veut dire ce besoin d'être en contact avec les autres, de ne pas se sentir trop seul. J'ai lu aussi que finalement, ce qui fait exploser le chiffre, c'est le télétravail. Hein, et c'est vrai que le confinement n'a fait que amplifier ce phénomène. Et c'est assez inquiétant parce que dans mon idéal, j'aime l'idée que le virtuel doit servir le réel. Et là, on se rend compte de plus en plus avec les années que c'est l'inverse.
Vous êtes psychologue, psychanalyste. J'ai envie de vous dire, ça peut aussi créer une forme, évidemment, de dépendance.
Oui, alors d'un point de vue, on va dire des organismes psychiatriques internationaux, le concept de dépendance ou d'addiction aux réseaux sociaux n'est pas confirmé, mais on a envie de se dire qu'on perçoit chez nos contemporains à quel point il y a en effet un rapport très addictif. J'avais il y a bien longtemps évoqué que ce portable était comme un doudou sans fil, et en effet le doudou, comme vous savez, permet de pallier à l'absence, et on voit peut-être à quel point les êtres humains dégainent leur portable pour peut-être éviter de se retrouver face à eux-mêmes. Et c'est évident que on y voit en effet une nouvelle forme d'addiction virtuelle qui vient révéler chez l'individu des fragilités entre autres narcissiques.
Et au-delà de ce danger de l'addiction, est-ce qu'il y a un danger aussi sur le fait de passer trop de temps sur Internet ?
Écoutez, on va dire que le danger pour nous, en tout cas quand on travaille à ces phénomènes d'addiction, entre autres, c'est la rupture des liens sociaux. Alors c'est très paradoxal, mais on voit peut-être petit à petit des couples, des familles entières où chacun est seul face à son écran, où il y a peu de communication. Et c'est peut-être là où se situe un des dangers. Qu'est-ce que ça vient révéler de l'incapacité à communiquer? Alors j'ai tendance à prôner qu'il faut partager nos écrans. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque en famille, on peut, pourquoi pas, partager alors des séries évidemment, mais partager quand notre ado nous présente une vidéo YouTube, la regarder avec lui, et ça peut servir de support à discussion. Donc je pense que c'est peut-être ce qui peut m'inquiéter, c'est cet enfermement au sein même d'une famille, c'est d'être quelque part seul ensemble. Et c'est peut-être là où on peut, entre guillemets, s'inquiéter maintenant. Je ne suis pas un ayatollah de prescription psy en disant, écoutez, il faut absolument arrêter tout ça. Mais l'idée de se reconnecter avec soi-même et donc avec les autres est plutôt une bonne idée.
Oui, mais justement, vous dites que c'est quelque chose de social, ça doit être quelque chose de social. Et,
oui.
Et pour autant, par essence même, Internet, c'est un réseau social. Enfin, ça permet de connecter les gens entre eux.
Eh ben oui, mais écoutez, je crois que c'est on est en train de vivre une grande désillusion pour se rendre compte à quel point les réseaux sociaux sont asociaux, hein. Et que finalement, alors, je me permets une petite pub, je sors un livre le 8 septembre là-dessus, les réseaux asociaux, et on voit bien à quel point l'économie de l'attention propre aux réseaux sociaux est une manière de pousser l'être humain à rester là-dessus et finalement de ne pas vraiment socialiser. Et au-delà, comme vous pouvez le repérer sur Facebook ou Insta, entre autres, l'être humain ne communique plus vraiment. Il est simplement là, comme une sorte de miroir, cherchant des likes, cherchant à être suivi. Et au bout d'un moment, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment une forme de socialisation? Et d'autant plus, moi, travaillant plutôt avec les ados, de remarquer à quel point c'est très tyrannisant, parce qu'on nous propose des figures assez clichés d'un bien-être un peu californien d'ailleurs, hein, et qui finalement renvoie à l'être humain à quel point il n'est jamais à la hauteur. Donc j'ai tendance à penser que les réseaux sociaux entre guillemets, ne crée plus de la souffrance que du véritable bien-être.
Merci beaucoup, Michael Stora. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Merci d'avoir été l'invité de RTL Midi. On va évidemment revenir sur ce sujet dans Les Auditeurs ont la parole. Est-ce qu'on passe trop de temps sur Internet? Vous avez sans doute un avis sur la question. On est en pleine vacances. En tout cas, il y a peut-être un rendez-vous qui peut vous donner de lever les yeux de votre écran. À ne pas rater, pour les astronomes en herbe, la nuit prochaine, le ciel va devenir étincelant avec des milliers d'étoiles filantes. C'est ce soir que le phénomène devrait être le plus impressionnant. Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace à Toulouse.
Alors c'est un beau spectacle parce que ce qu'on appelle des étoiles filantes, en fait ce sont des poussières laissées par la comète Swift-Tuttle, et la Terre traverse ce nuage de poussière. Donc ce sont des grains qui rentrent dans notre atmosphère à grande vitesse et ça provoque une traînée lumineuse parce que ces grains vont tout simplement brûler dans notre atmosphère. Alors s'étendre au sol, c'est le meilleur instrument astronomique pour regarder les étoiles filantes. Il faut oublier les jumelles, les télescopes, ça réduit trop la zone d'observation du ciel. Le mieux, franchement, c'est de s'allonger et d'embrasser la plus grande partie de voûte céleste possible et surtout faire preuve de patience. C'est-à-dire si on sort sur son balcon éclairé, qu'on regarde 5 minutes, on se dit « il n'y a rien, on rentre », en fait, on a tout raté. Parce que d'abord, la lumière du balcon est une source de pollution lumineuse, il faut tout éteindre, ne pas regarder son téléphone portable de temps en temps parce que votre pupille va se fermer, votre vision nocturne ne sera pas là, vous ne verrez pas les étoiles filantes. Donc un petit peu de patience, juste s'allonger et profiter du spectacle.
Voilà les bons conseils d'Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace à Toulouse avec Sophie Jousselin pour RTL. Un défi fou qui suscite aujourd'hui la plus grande inquiétude. Un navigateur originaire des Côtes d'Armor, Guirec Soudé, tente de traverser l'Atlantique à la rame. Il est parti des États-Unis le 15 juin dernier. Son arrivée à Brest est prévue début septembre, mais il a disparu des écrans radars depuis le 29 juillet. Des recherches vont être mises en place, Frédéric Veille.
Oui, plus de nouvelles depuis 14 jours, très exactement, depuis que la balise GPS de Guirec Soudé s'est éteinte. On le rappelle, l'aventurier breton avait déjà, le 3 juillet dernier, subi une tempête en Atlantique qui, depuis, le prive d'électricité à bord, donc de moyens de communication. Jusqu'alors, il donnait de ses nouvelles par VHF, dès lors qu'il croisait un navire en mer, mais là, plus rien depuis le 29 juillet. Cela commence donc à faire long pour toute son équipe à terre, dont fait partie Alice Clessens.
Bah, inquiète, et on reste confiant aussi, hein, puisque a priori, la version optimiste des choses veut que ce soit un problème électrique et que c'est vrai que sans électricité à bord, ben, on ne peut plus le localiser. Et voilà, enfin, les recherches sont en cours dans la zone où se trouve Guirec. En tout cas, la balise de détresse qui, elle, est autonome. Elle, si il venait à la déclencher, le signal de détresse serait transmis immédiatement au centre de recherche. Donc voilà, on se raccroche à ça aussi. Hein.
Alors selon les derniers pointages ou estimations de son routeur, Guirec Soudé se trouverait à 300 000 au nord de l'île de Tessera, aux Açores, mais cela risque d'être encore compliqué pour le marin breton, puisque la nuit prochaine, une forte houle de sud-ouest, avec possiblement des creux de plus de 4 mètres, est attendu sur zone.
Les explications de Frédéric Veille pour RTL. Face à la situation inquiétante en Afghanistan, la France annonce avoir suspendu depuis le mois de juillet les expulsions de migrants afghans. Sur place en Afghanistan, les talibans sont en train de reprendre le contrôle du pays depuis le départ de l'armée américaine. En Grèce, ce sont désormais plus de 100 000 hectares qui ont brûlé en 2 semaines, un record depuis les incendies meurtriers de 2007 sur place qui avaient ravagé plusieurs régions du pays. La Grèce qui est actuellement touchée par une forte canicule. Et puis en Algérie, les incendies ont fait au moins 69 morts dans le nord du pays. Des feux d'origine criminelle, selon le gouvernement local. La France envoie 2 Canadair et un avion de reconnaissance sur place. Le Paris Saint-Germain a-t-il les yeux plus gros que le ventre? Après un recrutement XXL pour son mercato estival, avec notamment l'argentin Lionel Messi qui a été présenté hier à la presse, le président du club, Nasser Al-Khelaifi, estime que le Parc des Princes est désormais trop petit. 48 000 places, ce n'est pas assez. Il lance un appel à la maire de Paris, mais c'est loin d'être gagné, Philippe Sanfourche.
Et oui, dream bigger, rêvons plus grand, c'est l'éternel slogan du PSG. Forcément à l'étroit dans ce Parc des Princes, pourtant rénové ces dernières années. Le club y a engagé plus de 150 millions d'euros de travaux, donc pas question de déménager au Stade de France, par exemple. De toute façon, le Qatar veut rester à Paris intramuros s'il faut voir la Tour Eiffel en sortant du stade. Seule solution, donc, pousser les murs, comme l'a encore réclamé, vous le disiez hier, le président parisien.
J'adore le Parc des Princes, mais on a besoin d'agrandir le stade. C'est quelque chose de très, très important pour notre supporter, pour aussi la future de la club. Chaque grand club aujourd'hui, il a minimum 80 000 supporters, on est obligé.
Alors 80 000, c'est impossible. La structure même du stade ne permet pas de le surélever, par exemple, creuser non plus, car le périphérique passe juste en dessous. Seule solution, rapprocher les tribunes du terrain, modifier leur inclinaison pour grimper au maximum à 60 000 places. Ce sera de toute façon après 2024 et les JO pour le possible début des travaux. Donc échéance 2026 au mieux pour l'inauguration. On peut penser que d'ici là, Lionel Messi sera à la retraite.
Philippe Sanfourche du service des sports de RTL. Un contrôle technique désormais obligatoire pour les deux roues à partir de 2023. Tous les deux ans, 2 millions de véhicules seront concernés. Le tarif devrait être un peu moins élevé que pour les voitures. On parle d'une cinquantaine d'euros. Ça vous fait peut-être réagir, ce contrôle technique pour les deux roues. On attend vos appels. Parlez-nous au 3210. On attend vos appels et vous pourrez vous exprimer tout à l'heure à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Et puis en Allemagne, la saucisse de la discorde. Le constructeur automobile Volkswagen a supprimé la currywurst du menu de sa cantine. Cette saucisse fumée nappée de ketchup et de curry, c'est un plat très populaire de l'autre côté du Rhin. Problème, la production de viande de porc n'est pas bonne pour l'environnement. C'est ce qui a justifié en tout cas la décision de Volkswagen, mais c'était sans compter sur une levée de boucliers chez nos voisins allemands, Léo Brauer-Potier.
Ça peut sembler pas très appétissant là comme ça, mais pourtant c'est un cas idéal pendant le travail ou après le travail. C'est l'équivalent de notre jambon beurre national en Allemagne. En 2019, dans les cantines de Volkswagen, ils s'en mangeaient pas moins de 7 millions. Le constructeur a donc décidé d'arrêter la vente de ses saucisses dans l'un de ses plus gros selfs d'entreprise afin de mettre en avant des plats végétariens. Sous le feu des critiques, notamment celle de l'ancien chancelier Gerhard Schröder, Volkswagen se défend en mettant en avant l'argument écologique. Comprenez, moins de viande, c'est moins de CO2 et c'est donc meilleur pour le climat. La manœuvre n'est pas sans arrière-pensée vu que Volkswagen prévoit de ne plus développer de véhicules à moteur thermique à partir de 2026 afin de se concentrer sur l'électrique. Entre-temps, le mot dièse « sauver la currywurst » continue de tourner sur les réseaux sociaux.
Le reportage de notre correspondant en Allemagne, Léo Brauer-Potier. On marque une pause et dans un instant, les Jeux sont faits, une chronique de l'été qui va nous emmener à Athènes après les JO de 2004.
RTL.
RTL. Les Jeux sont faits.
Les Jeux sont faits.
Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est terminé depuis le week-end dernier. Mais cet été sur RTL, on fait le tour de la planète dans les villes qui ont déjà organisé les JO. En 2004, c'était à Athènes, véritable symbole, puisque c'est là que les Jeux Olympiques antiques et modernes sont nés. Leur retour a été une grande fête, mais l'après-JO n'a pas laissé que des bons souvenirs chez les Grecs. Une chronique signée Alexia Kefalas.
Le 13 août 2004, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Athènes est aussi grandiose que forte en émotion pour ce retour des Jeux dans leur lieu de naissance, la Grèce.
Jeux olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce.
Les bouzoukis et les tambours se relaient à un rythme effréné jusqu'à ce qu'un lancer de flammes vienne allumer les anneaux olympiques devant 100 000 spectateurs, laissant exploser leur joie dans un stade flambant neuf. Tout en regardant la chanteuse islandaise Björk se laissant glisser sur des tissus en forme de vagues montrant la Méditerranée. Commence alors 15 jours de rêve Hélène, puis 15 autres pendant les Paralympiques du mois de septembre. Mais depuis, pas grand-chose. Quand on se promène dans la capitale grecque aujourd'hui, on aperçoit encore les constructions olympiques que l'on distingue par leur structure faite de grandes lignes fluides, répétées, qui rappellent des ossements dont l'architecte espagnol Santiago Calatrava affiche encore fièrement dans son catalogue international. Mais la plupart sont fermées, laissées pour compte, protégées par des gardes mais sans vie. Le sable du stade de beach volley est resté intouché depuis 2004, alors que les sièges ont été foudroyés par le manque d'entretien. La plupart des voisins en profitent pour y promener leurs chiens au quotidien.
Oui, moi je sors mon chien ici tous les jours, même s'il y a beaucoup de poubelles et de mauvaises herbes, mais je ne le laisse pas aller là où il y a de gros tas d'ordures, au cas où il y aurait des rats. Mais honnêtement, c'est dans cet état depuis la fin des JO de 2004.
Un constat d'échec qui coûte à l'État grec quelques 50 millions d'euros par an, rien que pour la sécurité, sans compter le coût total des Jeux Olympiques, plus de 8 milliards d'euros. Ils ont largement contribué à plonger la Grèce dans le marasme économique de ces 10 dernières années. Les experts estiment qu'il faudra 4 générations pour totaliser totalement les rembourser. Manuela, du conseil de quartier de la banlieue balnéaire de Faliro, où se trouvent nombre de stades, fustige ce gâchis depuis plus de 15 ans.
Je ne sais pas s'il aurait fallu construire les stades avec des matériaux aussi chers, aussi modernes. Maintenant, ils ne servent à rien et on aurait pu faire tant. Nous sommes le pays qui a inventé les Jeux Olympiques et c'est dommage de ne pas être l'exemple de l'organisation de grands événements. C'est dommage. Dommage.
Kyriakos Mitsotakis, ce premier ministre grec au pouvoir depuis 2019, a décidé d'agir. Il a alloué 43 millions d'euros du fonds de relance européen pour rénover le prestigieux complexe du stade olympique et déplore.
Il n'y a pas eu le moindre entretien de ce toit ces 17 dernières années. Rien.
Il a aussi accéléré la vente de sites olympiques à des privés. Le stade de taekwondo se loue facilement pour des concerts. Et l'ancien aéroport d'Athènes, qui abritait plusieurs stades, dont ceux de baseball, de softball et bien d'autres, va devenir un parc écologique unique en Europe. Une fierté pour le pays, car la Grèce mettra sans doute encore longtemps à se porter à nouveau candidate pour l'organisation de Jeux olympiques.
Les Jeux sont faits, une chronique signée Alexia Kefalas à réécouter sur RTL.fr et sur notre appli RTL. La météo, Claire Delorme, des forts orages prévus cet après-midi en plus de la chaleur.
Exactement, donc des orages surtout prévus plus en soirée. Une dizaine de départements est en vigilance, en tout cas en alerte canicule, donc deux, notamment la Drôme et les Alpes de Haute-Provence, et puis le reste en vigilance orage, donc des orages forts en soirée, surtout en Rhône-Alpes, en Jura et puis aussi un petit peu en Auvergne, Massif central. Et donc dans le détail, ces orages, avant d'être localement forts, ils vont surtout progresser d'abord donc dans le Quercy, puis remonter vers le Périgord. Ensuite, en deuxième partie, ils vont investir le Massif central avant d'atterrir donc en soirée et dans le courant de la nuit. Vraiment, donc pour la région Rhône-Alpes, donc il sera accompagné surtout d'importantes chutes de grêle. Donc c'est là où je vous invite à la prudence et surtout de fortes rafales de vent, plus de 100 km/h. Donc si vous êtes à la lisière des bois en vacances ou tout simplement si vous êtes sur la route, faites attention éventuellement au décrochage de branches. Partout ailleurs, c'est le beau temps qui se maintient avec forcément des conditions très estivales, puisque côté température, la barre des 30 degrés sera quasi franchie sur l'ensemble du pays. Ça sera un petit peu plus tempéré vers le littoral de la Manche, entre 21 degrés à Brest et jusqu'à 24 degrés à Lille. Par contre, on attend encore des températures très fortes, jusqu'à 38 voire 40 degrés localement dans le sud-est, surtout dans l'arrière-pays provençal. Et puis sinon, côté température, un petit peu plus dans le détail, ça fera du 36 degrés à Nîmes, 36 degrés à Montélimar, 36 degrés également à Toulouse, 32 degrés à Bordeaux, 33 degrés à Dijon, 32 degrés à Bourges, 31 degrés à Reims.
Merci beaucoup Claire Delorme. Dans un instant sur RTL, il sera 13h. RTL.